Elle repoussa le verre de lait qu'on venait de déposer devant elle et commanda à la place un pot de café noir. Elle sortit de son sac à dos le notebook de Jonathan. « J'ai apporté ton ordinateur. Je voulais revoir le dossier Dixon. Tu m'as dit que tu l'avais téléchargé ? Ce sera plus facile pour le consulter que sur mon téléphone. » Jonathan alluma sa machine. « Tu crois que Jim a été tué ? » ?»«
N'en sais rien.
Moi, je pense qu'on l'a assassiné et que son meurtre est lié à ce qu'il venait de découvrir sur Alice. Ne t'emballe pas. Il y a encore une semaine, tu n'avais jamais entendu parler de cette affaire. C'est ce qui me permet d'y porter un œil neuf. »
Qui t'amène à quelle conclusion ?
Je pense que la police ou les services secrets ont tout fait pour étouffer cet enlèvement.
Tu fabules !
Tu veux des faits troublants ? Les caméras de surveillance. J'ai lu le dossier. À l'époque, une douzaine d'appareils filmaient les rues autour du collège d'Alice. 12. Et comme par hasard, elles étaient toutes endommagées ce jour-là. Ça ne t'a pas paru bizarre ? C'est ta théorie du complot qui est énorme. J'ai vu Alice 6 mois après que tu as reçu son cœur dans une glacière.
On ne saura jamais si c'était vraiment elle.
C'était elle. Et c'est parce que Jim en avait la preuve qu'il a été tué. Il ne suffit pas d'affirmer les choses, il faut les prouver. Alice n'est pas morte, fais-moi confiance. La confiance n'a rien à voir là-dedans. Alice n'est pas morte, répéta-t-il. Et si elle est encore vivante, c'est qu'elle a bénéficié d'une transplantation cardiaque. Une opération qui n'apparaît pourtant sur le registre d'aucun hôpital. Tu imagines le réseau de complicité et l'organisation nécessaire pour mettre ça sur pied ? Qui est capable de monter une telle opération à part une agence gouvernementale ?
Tu regardes trop de séries télévisées.
Écoute, tout le monde se foutait d'Alice Dixon lorsque j'enquêtais sur elle. Sa mère la première, une junkie qui vivait dans un quartier pourri. Cette gosse, c'est la fille de personne, et je ne vois pas ce que le gouvernement vient faire là-dedans.
Madeleine avala une tasse de café, puis, comme 100 fois déjà dans sa vie passée, se plongea dans le dossier d'Alice pour se rafraîchir la mémoire. Le compte-rendu de la première audition du tueur en série Bishop s'afficha sur l'écran, ainsi que différents clichés. Les photos de la maison misérable d'Erin, qui contrastaient avec celle de la chambre parfaitement rangée d'Alice, ses livres, ses affiches de concert, ses boîtes de biscuits Oreo et ses briquettes de lait fraise. Mais l'image de Jim restait incrustée dans l'esprit de Madeleine. Qu'avait-il fait après sa rencontre avec Jonathan ? Qu'aurait-elle fait, elle ? Sans doute avait-il ordonné une analyse graphologique et un relevé d'empreintes. Peut-être aussi une recherche génétique. En fouillant dans son portable, elle retrouva le numéro de Tasha Medeiros, l'une des techniciennes ADN du laboratoire de police scientifique de Birmingham. C'était une biologiste brillante, mais plutôt coulante avec les procédures. Dans le passé, Jim et elle l'avaient souvent sollicitée parce qu'elle acceptait d'effectuer des analyses en urgence sans passer forcément par le cadre légal. Il faut dire que Tasha faisait une consommation maîtrisée de cocaïne et que Jim, pour entretenir leur bonne relation, lui refilait ponctuellement quelques doses saisies lors des arrestations de petits dealers.
Drôle de morale, commenta Jonathan.
La police, c'est pas le monde des bisounours,
objecta Madeleine en composant le numéro. Tasha ne travaillait pas aujourd'hui. Elle était chez elle avec sa fille, mais confirma que Jim lui avait effectivement demandé de faire une analyse. Elle était de garde la nuit dernière et elle lui avait envoyé les résultats par mail au petit matin.
Tu ne te souviens plus de quoi il s'agissait ?
Une comparaison entre deux ADN.
Tu pourrais me transférer le courrier, s'il te plaît ?
Aujourd'hui, ce sera difficile.
C'est très important, Tasha. Jim vient de mourir. J'essaie de comprendre pourquoi.
Merde.
Je t'envoie mon adresse mail.
Ok, je vais passer au bureau avec Paola. Tu auras les résultats dans moins d'une heure.
Sur l'ordinateur, Jonathan consultait les photos des massacres de Bishop. Il avait revendiqué l'assassinat d'Alice sans jamais apporter la moindre preuve. Au milieu de ce déluge de sang et de violence, Jonathan prit soudain conscience que c'était grâce à ces atrocités que Madeleine et lui étaient ensemble ce matin. Sans la disparition d'Alice, ils ne se seraient jamais revus. Alors qu'elle tripatouillait son téléphone pour vérifier son accès au réseau, Madeleine entreprit de vider le dossier de filtrage. Celui-ci contenait une bonne trentaine de spams en tout genre, l'incitant à commander des montres de luxe,
Des pilules pour doper son énergie sexuelle ou des produits miracles capables de lui faire perdre 10 kilos en 10 jours.
Regarde ça.
Au milieu de ses courriers non sollicités, un mail retint son attention. Il avait été envoyé 24 heures plus tôt par Jim Flaherty. Son cœur s'accéléra. Pourquoi le mail de Jim avait-il été filtré par le logiciel anti-spam? Peut-être en raison de ses nombreuses et lourdes pièces jointes. Elle en prit connaissance avec fébrilité.
De Jim Flaherty à Madeline Green. Objet, autopsie. Date, 22 décembre 2011, 18h36. Chère Madeline, ne trouves-tu rien d'étrange sur certaines de ces photos? Appelle-moi si c'est le cas. Ton ami, Jim.
Suivait un document PDF ainsi que plusieurs clichés. Madeline transféra le mail sur l'ordinateur pour visionner les documents en mode plein écran. Ils se rapportaient tous à l'autopsie de Danny Doyle, le parrain de Cheatham Ridge.
« Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, celui-là » demanda Jonathan tout haut.
Il se pencha pour lire le rapport d'autopsie en même temps que Madeline. Comme il le savait déjà, on avait retrouvé le corps de Danny au milieu d'une friche industrielle, abattu d'une balle dans la tête, les mains et les pieds tranchés, les dents arrachées. Une exécution attribuée à un gang ukrainien dont le chef avait subi les mêmes réjouissances quelques mois plus tôt. Le compte-rendu du médecin légiste était classique. Précision de l'heure de la mort d'après la rigidité cadavérique. Mise en évidence de traces de poudre autour de la blessure, analyse des organes et de certains prélèvements, sang, contenu gastrique, ADN. Autant d'éléments qui avaient confirmé sans l'ombre d'un doute l'identité de Danny Doyle. Comme souvent dans les autopsies de crimes violents, les photos donnaient des walkers. Visage violacé et déformé par la torture, thorax verdâtre incisé jusqu'à l'abdomen, hématomes par dizaines qui marbraient tout le corps. Danny avait été torturé et n'était pas parti en paix. Mais qu'est-ce que Jim avait bien pu trouver d'étrange sur ces clichés? Madeline joua avec le zoom pour agrandir certaines zones.
Ils lui ont même arraché un bout d'oreille, nota Jonathan.
Madeline fronça les sourcils et examina la zone qu'il pointait du doigt.
C'était vrai.
Le cadavre avait une bonne partie du lobe de l'oreille droite déchirée. Mais cette blessure semblait ancienne. Or, Danny n'avait jamais eu l'oreille abîmée, à l'inverse de Johnny, son jumeau.
« Ce n'est pas Danny, c'est son frère !» s'écria-t-elle.
Elle expliqua l'histoire à Jonathan. Les deux bébés sortis du ventre de leur mère à 5 minutes d'intervalle. La rivalité des deux frères, la violence et la cruauté de Johnny qui souffrait de schizophrénie et qui avait été plusieurs fois interné avant de sombrer dans l'alcoolisme. Elle bascula sur le rapport d'autopsie pour relire le paragraphe sur l'analyse des organes. Le foie du cadavre était atteint d'une dégénérescence des tissus vraisemblablement causée par l'absorption d'alcool. Une cirrhose.
Danny buvait un verre de temps en temps, mais il n'a jamais été alcoolique.
Comment les flics ont-ils pu faire une telle confusion?
Les vrais jumeaux possèdent le même patrimoine génétique, ce qui rend impossible de distinguer avec certitude leur ADN.
Tu es sûr de ça?
Il y a eu plusieurs affaires de ce genre, notamment un vol en Allemagne et un trafic de drogue en Malaisie. Dans les deux cas, le suspect avait un jumeau, et la justice a été obligée de le relâcher, faute de pouvoir l'identifier avec certitude.
Mais... si ce cadavre est celui de Johnny,
cela signifie que Danny est vivant, confirma Madeline, songeuse. Ils commandèrent un nouveau pot de café. Pendant plusieurs minutes, ils se perdirent en conjectures jusqu'à ce que Madeline reçoive le courrier de Tasha Medeiros, la technicienne ADN du laboratoire de Birmingham. De Tasha Medeiros à Madeline Green. Madeline, voici le résultat de l'analyse que Jim m'avait demandé de pratiquer sans passer par le canal officiel. Je suis très triste pour lui. En espérant que cela puisse t'aider, Tasha. Très intriguée, elle cliqua sur la pièce jointe tandis que Jonathan se penchait sur son épaule pour découvrir le document avec elle. Il se présentait sous la forme d'un tableau complexe d'une quinzaine de lignes sur 6 colonnes. Chaque case contenait plusieurs chiffres. Il leur fallut quelques secondes pour comprendre qu'il s'agissait d'un test de paternité. Ils sautèrent alors au dernier paragraphe qui mentionnait le résultat et ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix.
Test de paternité réalisé sans présence de matériel génétique de la mère. Basé sur l'analyse de l'ADN. Père allégué, Daniel Doyle. Enfant, Alice Dixon. Des allèles similaires ont été mis en évidence dans les 15 Loki analysés. La probabilité de paternité est évaluée à 99,999%.
Avant de mourir, Jim avait eu une intuition géniale. Au bout de 3 ans d'enquête, il avait réussi à prouver non seulement Danny Doyle n'était pas mort, mais aussi qu'il était le père d'Alice Dixon. Une découverte qu'il avait payée de sa vie.